RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique sur France 24 et RFI avec Frédéric Rivière. Nous saluons notre deuxième invité. Bonsoir Louis Alliot. Vous êtes député des Pyrénées-Orientales et vice-président du Front National. Donc le président Emmanuel Macron était ce matin devant les députés européens à Strasbourg pour tenter de les mobiliser autour de son ambition de refonder l'Europe. Écoutez ce qu'il a déclaré, c'est un extrait.
Il faut entendre la colère des peuples d'Europe aujourd'hui. Ce n'est pas de pédagogie dont ils ont besoin, mais d'un projet nouveau, d'une exigence d'efficacité au quotidien. Et ceux qui font commerce de cette colère qu'ils attisent proposent pour seul avenir la voie sans issue du retour au déchirement nationaliste d'hier. Nous en avons expérimenté toutes les voies et toutes les conséquences.
Alors on entend bien que c'est l'Europe souverainiste, l'Europe de la Hongrie ou de la Pologne que vise Emmanuel Macron dans ce propos. Au fond, l'Europe aussi que vous défendez au Front National, qu'est-ce que vous auriez envie de répondre au président de la République ?
Qu'il se trompe, en fait il a repris sous une autre forme, souvenez-vous de ce qu'avait dit François Mitterrand, le nationalisme c'est la guerre, précisément au Parlement européen, mais depuis cette phrase-là de François Mitterrand, il y a eu Maastricht, il y a eu... la Constitution européenne et le référendum sur le non, il y a eu des évolutions et cette Europe ne fonctionne pas. Il est le premier à le dire d'ailleurs. C'est ça que je regarde moi. Dans tous les discours, Macron dit ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, il faut aller plus en avant. Donc le constat, il est là, nous le faisons, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait ?
Il n'est pas le premier dirigeant à dire l'Europe fonctionne mal parce qu'il n'y a pas assez d'Europe.
Oui, mais c'est trop facile.
Ce n'est pas ce que vous dites.
C'est trop facile de s'en prendre à ceux qui n'ont aucune responsabilité là-dedans. Parce que quand il pointe du doigt ceux qui mettent précisément en cause ce modèle européen, il devrait s'interroger sur le modèle lui-même. C'est ce que nous faisons. Nous ne disons pas retour à 50 ans en arrière, avec des frontières totalement hermétiques, où on discute avec personne. On dit refonder une Europe des nations. Ça veut dire une coopération entre États, entre peuples, sur des projets précis, Ariane, Airbus, des choses comme ça, et arrêtons de faire de la bureaucratie, de la réglementation et de tout ce qui nuit précisément à l'efficacité économique.
Alors chacun a effectivement sa vision d'une Europe qui fonctionne pas. C'est pour ça qu'il veut refonder l'Europe, Emmanuel Macron, avec de nouvelles compétences pour l'Europe, un budget, un ministre des Finances. Ça n'a pas l'air de plaire à certains pays de l'Est, même peut-être même à Angela Merkel. Mais est-ce que, dans le fond, vous comprenez la vision de l'Europe que veut Emmanuel Macron?
Oui, parce que c'est une vieille vision. C'est celle de Jean Monnet. C'est une Europe intégrée, fédérale, où les capitales ne sont plus aux commandes de l'Europe, de l'Union européenne, et où on donne le pouvoir à d'autres. En face de Jean Monnet, vous aviez Charles de Gaulle. De Gaulle disait, lui, non, c'est une coopération des nations, des États et des peuples qui peut fonctionner, parce que sinon... les États n'en voudront jamais, c'est précisément ce qui est arrivé à la France. Moi, je reviens toujours quand même à quelque chose qui est assez extraordinaire. L'Europe que nous vend aujourd'hui le président de la République, c'est l'Europe auquel le peuple français a répondu non en 2005. Alors, il faut le dire, comment ? Les Français ont répondu non. Et aujourd'hui, vous avez en Europe de l'Est, mais pas seulement. Regardez l'Italie. Regardez l'Autriche. Regardez le Brexit anglais. Il y a quand même beaucoup de nations qui ne sont pas anti-européens, qui sont contre ce modèle européen, qui est tout simplement la même mise de la finance sur les leviers du pouvoir en Europe. C'est ce contre quoi nous luttons, et c'est ce, malheureusement, pourquoi Emmanuel Macron, lui, se bat.
Alors Emmanuel Macron va lancer une grande consultation, aller voir les Français, pour savoir ce qu'ils attendent de l'Europe. Leur redonner le goût de l'Europe. Alors, Emmanuel Macron, il avait dit qu'il ferait ceci, on pensait qu'il n'y arriverait pas, sur le code du travail, sur plein d'autres choses. On verra si la SNCL y arrive. Est-ce qu'il peut y arriver à redonner de l'envie d'Europe ?
Déjà, il a vu ses ambitions à la baisse. Il voulait faire un gouvernement de la zone euro. Tout ça a été revu de fond en comble, parce que les Allemands n'en veulent pas, parce que d'autres pays n'en veulent pas. Donc voilà, il est face... à des réalités étatiques et des réalités qui, elles, ne sont pas des mots en l'air. Alors il rêve, il a de beaux discours, une belle rhétorique, et puis il y a là, le principe de réalité qui va s'appliquer, et là il voit bien comment ça se passe, et que la France subit la plupart du temps des réglementations tatillonnes qui ennuient, que ce soit des professionnels comme les agriculteurs, ou que ce soit carrément...
Vous êtes ennuyé, vous, quand vous étiez député européen ?
Oui, mais en permanence, on vote des textes, la plupart du temps, qui n'ont aucun sens et qui sont inapplicables sur le terrain. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le Parlement européen est un Parlement...
Exemple. Vous avez beaucoup reproché à Rachida Dati de l'avoir dit à l'époque, ça avait été filmé à son insu, donc finalement, elle avait raison.
Mais sur l'immigration, par exemple, c'est l'ouverture à tout cas. L'histoire de la SNCF, ce qu'on oublie de dire à SNCF, c'est que c'est quand même une réforme qui a été négociée dans les années 90, et on nous demande aujourd'hui... à la fin du parcours, en quelque sorte, de voter l'adaptation de la directive au droit français, sans préparation, parce que les gouvernements français ont toujours mis la poussière sur le tapis. Le problème, il est là.
Sur ou sous le tapis ?
Sous le tapis.
Ah oui, vous avez dit
et
sûr.
Ils ont, aujourd'hui, on lève le tapis, il y a la poussière, il faut faire vite, parce que nous sommes pieds et poings liés par la réglementation européenne.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure l'Europe de l'Est, et je vous ai cité la Hongrie et l'Autriche. Est-ce que ce qui se passe dans ces deux pays n'accrédite pas tout de même l'idée que, aujourd'hui, ceux qui sont contre cette Europe intégrée, cette Europe fédéraliste, sont aussi des personnalités, des régimes qui ont une petite tendance à s'accommoder avec les règles de la démocratie.
Et qui ont profité des subsides de l'Europe, en plus.
Ce qui se passe. Non, mais ce qui
se passe. Sur la Hongrie, ils ont connu l'un des deux totalitarismes les plus ignobles, le communisme. Et tout le monde se souvient de Budapest. Et tout le monde se souvient de la manière dont les Hongrois ont été très précisément traités.
Ouais. Donc,
eux, ils ne risquent pas de retomber dans le totalitarisme. En revanche.
Ça, vous savez.
En revanche, ils s'aperçoivent que la réglementation européenne, quelquefois, les oblige à faire des choses dont ils ne veulent pas.
Mais ce qui se passe, par exemple, en Hongrie et en Pologne, en matière de liberté de la presse, en matière d'indépendance de la justice, vous dites, bon, chacun fait ce qu'il veut chez soi, ou vous dites, oui, c'est vrai qu'il y a quand même un problème de ce côté-là.
Ils se dirigent avec le peuple qui vote pour eux, et en fonction des lois qu'ils ont proposées.
Oui, enfin, vous savez, il y a des exemples dans l'histoire de dictateurs qui ont été élus.
Oui, mais bien
et
sûr.
Et très bien élus, même.
Bien sûr, mais il n'en demeure pas moins, je ne crois pas que ce soit le cas de la Hongrie, et encore moins le cas de l'Autriche, et encore moins le cas de l'Italie, et encore moins le cas de la Grande-Bretagne. Le problème aujourd'hui est un problème de fond. L'Europe, telle qu'elle est constituée, d'ailleurs, c'est pas l'Europe, l'Union européenne donne une impression d'obliger à faire un certain nombre de choses que les peuples ne veulent pas. Et tant qu'on n'aura pas bien compris cette chose-là, eh bien, il y aura des désordres à l'échelle de l'Europe et des contestations.
Oui,
parce qu'aujourd'hui, c'est l'euroscepticisme qui a le vent en poupe.
Alors justement,
et le fédéralisme qui, il faut bien le dire, a des difficultés.
Louis Alliot, justement, vous me donnez une belle manière de poser cette question. Certains disent que si les Européens refusent de changer l'Europe, les anti-Européens gagneront. Est-ce que c'est pas justement le pari que vous faites ?
C'est-à-dire
parier sur une Europe qui est tellement détestée que les anti-européens, à un moment, vont gagner du terrain.
Sur la victoire, pas des anti-européens, de ceux qui vont réformer l'Europe dans un sens de plus de liberté pour les nations et plus de liberté pour les peuples, de l'Europe des coopérations, c'est ce que je vous disais, des projets, et arrêter d'avoir une commission, une technocratie, des réglementations. Tout ça, les gens n'en veulent plus. C'est pas une histoire. On nous ment. L'Europe, nous sommes un pays européen. La France est un pays européen. Mais l'Union européenne, c'est-à-dire le traité qui gère les affaires de cette Union européenne, lui, c'est un traité scélérat qui aujourd'hui cause plus de dégâts dans les économies nationales qu'il n'apporte de solutions. C'est cela qu'il faut réformer. Et les élections européennes, de ce point de vue-là, vont tomber à pic, si je puis dire, puisqu'il va y avoir deux visions qui vont s'affronter. La vision de M. Macron, plus d'Europe, Europe intégrée, moins de pouvoir à Paris, et une vision d'Europe des patries, d'Europe des nations, un retour à la souveraineté des États, aux coopérations, aux projets, c'est-à-dire à une Europe qui fonctionne pour le bien-être de l'ensemble des peuples européens.
On a longtemps parlé d'une Europe à deux vitesses, et il s'agissait, pour faire très simple, d'une Europe des riches, d'une Europe des pauvres, d'une Europe de ceux qui étaient prêts à faire tous les efforts budgétaires pour rentrer dans les clous, et à ceux qui étaient un peu plus accommodants avec ça. Est-ce qu'on pourrait aller finalement vers une autre forme d'Europe à deux vitesses, qui serait une Europe très intégrée et une autre qui serait plus souverainiste et qui demanderait, au fond, comme l'avait fait d'ailleurs le Royaume-Uni, qui demanderait à conserver un certain nombre de ses prérogatives, ou à les retrouver plutôt.
On aurait dû en rester là. Si la France avait demandé à obtenir le statut de la Grande-Bretagne avant le Brexit, ce fut parfait.
Ce scénario, il vous paraît aujourd'hui envisageable ?
Pour l'instant, il n'est pas envisageable, mais il faudrait qu'il soit une étape vers une autre manière de gouverner cette Europe de demain, que nous souhaitons, nous. Le problème, il est que le noyau dur aujourd'hui, c'est le couple franco-allemand. Sans l'Allemagne,
qui devient moins dur,
l'Europe
qui est de moins en moins dure, dit-on.
Est en panne. Sans la France, l'Europe est en panne. Il faut bien qu'il y ait une entente entre la France et l'Allemagne sur une autre manière de pratiquer l'Europe. Et vous avez vu que Mme Merkel est dans une extrême difficulté sur le sujet, notamment en raison des décisions qu'elle a prises, précisément sur l'immigration, sans en parler à ses partenaires européens et en faisant un accord avec M. Erdogan en Turquie, qui pose aujourd'hui un certain nombre de problèmes.
On va parler de la loi asile et migration. Donc la loi se discute en ce moment à l'Assemblée nationale. Vous allez la voter ?
Je ne crois pas, non. On va l'amender. On va
l'amender. Oui, alors, justement, vous n'allez pas la voter, vous allez l'amender. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas des mesures qui vont dans le sens que vous souhaitez, notamment la durée de traitement d'une demande d'asile qui passe la ramener de 11 à 6 mois ? Est-ce que ça, ce n'est pas... justement des sujets
sûr.
Où vous êtes
ça, c'est une
en
direction
accord.
C'est une direction qui est louable et c'est vrai que c'est un standard, là pour le coup c'est un standard que d'autres pays européens ont adopté depuis longtemps. C'est pour ça que quand j'entends la gauche crier à la dictature, au totalitarisme et aux mesures privatives de liberté, laissez-moi vous dire que ces gens-là ne regardent pas beaucoup ce qui se passe en dehors de la France, parce que c'est précisément ailleurs où ce sont des mesures beaucoup plus radicales que celles-là. Le problème de l'immigration aujourd'hui est un problème mondial dont on ne parle pas. C'est pour cela que nous avons proposé deux choses. Une proposition de loi constitutionnelle que Marine Le Pen a déposée au bureau de l'Assemblée et les cahiers d'action, c'est-à-dire 46 actions précises sur l'immigration, avec un volet, je pense, qui va échapper un peu à l'Assemblée nationale, et c'est bien dommage, un volet coopération avec les pays qui nous envoient de l'immigration. Il y a ceux qui sont dans la misère, il y a ceux qui sont en guerre. Il faut gérer les deux. Peut-être pas de la même manière, y avoir des coopérations avec cet État. C'est essentiellement en Afrique que ça se passe. Comment gère-t-on les rapports que nous devons avoir avec un certain nombre de pays africains, de chefs d'État africains, dans la perspective de ce siècle qui s'ouvre avec une Afrique qui sera, dit-on, dans les 50 ans qui arrivent, qui aura pratiquement doublé sa population. Voilà des sujets de fond, et ce n'est pas une petite loi, honnêtement, une petite loi d'ajustement qui va permettre de régler
donc,
là-dessus,
le
problème
le fait
de l'immigration.
Que, effectivement, par exemple, avec les pays africains, vous dites quoi qu'est-ce qu'il faut demander, par exemple, au président des pays d'où partent les migrants ?
Il faut revoir de fond en comble les relations que nous pouvons avoir avec un certain nombre de chefs d'État africains et
qu'est-ce que vous appelez
pays
de fond
africains.
En comble
ça, il faut stopper la France-Afrique. Tout le monde l'a dit, ça n'a jamais été frais. Non, mais je rigole pas. Ça existe encore. Oui. La France soutient encore un certain nombre de chefs d'État contre les droits de l'homme, contre tout simplement le droit international, et il faut maintenant que l'on se mette en accord avec ce que veulent les peuples, la démocratie, la liberté et surtout le développement. Nous faisons le pari du développement de l'Afrique parce qu'on pense que c'est en fixant les populations en Afrique que, évidemment, on va réguler les flux migratoires et qu'on empêchera toute immigration supplémentaire. Mais pour l'instant, on ne voit pas justement cette stratégie avec des mesures spécifiques, avec l'Union africaine. On voit par contre un certain nombre de désordres, et malheureusement, l'affaire de Libyenne a été, il faut le dire, pour l'Europe, un grand traumatisme dont on peut encore subir les conséquences.
Pour l'Italie aussi ça...
Oui, non, mais quand je dis pour l'Italie, la Syrie... Mais pas seulement, le Maghreb aujourd'hui, l'Algérie, le Maroc sont des pays qui nous envoient de l'immigration, et des pays comme la Côte d'Ivoire ou d'autres pays africains avec lesquels il faut s'entendre. Ce sont des pays qui ont des potentiels énormes, qui ont une jeunesse incroyable, qui ont vraiment des talents. Eh bien, il faut vraiment faire des partenariats entre les deux continents pour permettre un développement précisément du continent africain, mais aussi de l'Europe.
Alors, vous avez parlé des 46 propositions qui sont dans le contre-projet de Marine Le Pen. Il y en a une sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête un instant, qui est l'interdiction du communautarisme. Je vois que ça vous fait sourire, parce que vous-même, quoi, vous vous dites, oui, c'est vrai, c'est saugrenu. Comment on fait pour interdire le communautarisme ? Comment vous faites pour empêcher des personnes qui ont des affinités de se retrouver, de se regrouper ?
Ça vous l'empêcherait pas, mais vous pouvez éviter de financer des associations qui, elles, sont communautaristes. La République ne reconnaît aucune communauté.
Donc, interdire le communautarisme, ça ne veut rien dire.
La République, non, si, ça veut dire de mettre dans la Constitution que la République ne reconnaît aucune communauté. La seule communauté qui existe en France...
Favoriser la lutte contre le communautarisme, pas interdire le communautarisme. Ce serait comme interdire l'amitié, ça ne veut rien dire.
C'est la communauté française. Non, mais ça, là, c'est pour interdire le financement, précisément, d'un certain nombre d'associations...
C'est pas assez clair,
d'accord, ben, ça manque en effet peut-être...
D'associations et d'organismes communautaires qui, la plupart du temps, posent un certain nombre de problèmes, et on l'a vu...
Les écoles, par exemple
vous... Toutes les associations...
Qui mais vous tournent... mettez les écoles coraniques dans le...
Ça dépend lesquelles, mais la plupart du temps, tout ce qui tourne autour de l'UOIF, par exemple, et du radicalisme islamique, pose un problème. Il n'a pas à être financé par l'État, mais il n'a pas à être non plus financé par des pays étrangers. Et pour un certain nombre d'entre eux, ils ont même, on doit même, à mon avis, les interdire sur le territoire national.
Et comment parce on contrôle, d'ailleurs, ces financements venus de...
S'ils viennent de l'étranger, on sait très bien qui les finance. Vous savez, aujourd'hui, on a quand même les moyens de savoir. Et ce sont des gens qui sont surveillés. Ce sont quelquefois, pour des imams, des gens qui ont des propos ou des discours qui sont contraires aux lois de la République. S'ils ne sont pas français, ils doivent être expulsés. S'ils sont français, ils doivent être mis en prison.
Emmanuel Macron veut réformer le culte musulman. Il veut un islam français. Est-ce que c'est pas un peu, avoir un islam français, est-ce que c'est pas utopique? Ça veut dire quoi? Comment vous verriez...
J'attends de voir ce que...
Qu'est-ce que vous proposez, vous, par exemple, si vous étiez au pouvoir aujourd'hui?
Il n'y a pas d'islam à avoir, encore une fois. Je veux dire, la France est une république laïque. Il y a des musulmans, il y en a depuis longtemps déjà, hein, qui se sont battus pour la France. Cela, on les a laissés d'ailleurs, on les a abandonnés.
Hein. Les harkis, oui.
On les laisse en marge de la société. On a fait une petite commission pour régler enfin leurs problèmes. On verra ce qu'il en est. Pour le reste, voilà, il y a une loi de la République. On les accepte ou on l'accepte pas. Si on n'est pas capable de respecter la Constitution de la France et les lois de la République, on doit aller vivre sa foi ailleurs. Parce que c'est comme ça. Ou alors on s'adapte aux lois de la République. C'est pas à la République et à la France de s'adapter aux lois de différents islams, d'ailleurs. C'est à ces islams-là de respecter la République, de respecter la Constitution et les lois. Sinon, eh bien,
mais comment la France peut définir qu'elle veut réguler l'islam français? Ça veut dire quoi, un islam français? Parce qu'on entend souvent
justement,
ça.
J'attends que Monsieur Macron nous en
donne. Vous pourriez fournir de
nous en
idées.
Donne la définition. Je pense que si on avait voulu régler ce problème-là, c'était sous Giscard, on aurait dû donner la gestion à l'époque du culte musulman de la fin des années 70 et début des années 80, précisément aux anciens combattants de religions musulmanes français, dont on était évidemment certain de leur totale assimilation à la France. Malheureusement, on a fait le choix inverse, on a organisé l'islam, et c'est Nicolas Sarkozy qui l'a fait. Avec le Conseil français des cultes musulmans, il n'a pas organisé un islam, il a organisé des nationalités, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, etc. Et on en est à cette espèce de no man's land, si je puis dire, ou de bataille à l'intérieur même de ces communautés qui donnent un désordre absolument incroyable, mais qui donnent surtout la mainmise dans un certain nombre de quartiers des plus radicaux de cette religion, avec tous les problèmes, tous les attentats, toutes les violences que nous avons pu connaître depuis déjà pas mal de temps.
Alors, on approche de la fin de l'émission. Je voudrais qu'on dise un petit mot de politique, puisque Marine Le Pen a dit, je crois que c'était hier, « Je ne veux pas me laisser enfermer par l'union des droites qui ne veut strictement rien dire ». Est-ce qu'il est cohérent de dire ça et dans le même temps, alors vous allez me dire si c'est vrai, mais enfin, de proposer à Thierry Mariani, qui lui-même défend cette union des droites, d'être candidat sur une liste Front National aux prochaines européennes.
De quelle droite nous parlons? Moi, je les vois à l'Assemblée nationale. Vous avez une partie qui peut défendre les mêmes idées que nous avons dans beaucoup de domaines, y compris sur l'immigration, mais vous avez une partie de cette droite-là, encore une fois, laquelle qui défend les positions de M. Macron, qui vote avec la majorité de M. Macron. De quoi on parle? C'est pour ça qu'il ne faut pas se battre sur des petits partis, sur des petites querelles de partis politiques ou des petites ambitions de partis politiques. Il faut se battre sur des idées. Quelle France nous voulons pour demain? Qu'est-ce que nous voulons pour préparer l'avenir de notre jeunesse? Voilà, c'est sur ces idées-là qu'il faut se battre.
Question précise à propos de Thierry Mariani. Est-ce qu'effectivement, Marine Le Pen lui a proposé d'être candidat aux élections européennes?
Ils ont eu une discussion.
Oui, dans laquelle il y a eu cette proposition?
Il n'y a pas eu de proposition, il y a eu des discussions pour savoir comment l'avenir pourrait se faire avec des gens qui viennent précisément de la droite.
L'union des droites,
malheureusement,
c'est vous rejoindre, mais vous ne faites pas le pas vers
nous. Mais nous, on le fait, on le fait depuis toujours, on a toujours tendu la main.
Pas toujours.
Si, je rappelle, depuis longtemps déjà, et je rappelle que j'ai été élu moi-même député des Pyrénées-Orientales, je le dis systématiquement, parce que les électeurs de la droite ont voté pour moi au deuxième tour, pour une raison simple, c'est qu'il y a 5 ans...
10 secondes.
j'avais précisément retiré notre candidat pour faire barrage à la gauche.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci Louis Alliot et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine Frédéric, et merci à Charlotte Tomaka et à Camille Néron d'avoir préparé cette émission et à toute l'équipe pour l'avoir réalisée. Merci, à très vite.